Il co-anime le podcast La Relève avec Anthony Desauniers et maintenant le podcast Processus avec Anthony Marcotte et Marco D'Amico. C'est Martin Thériault qui est avec nous. Salut Martin!
Salut FX, comment ça va?
Je suis en pleine forme et là, il commence à se passer des signatures de contrats dans la Ligue nationale et ça, ça me fait plaisir parce qu'on attend ça avec impatience, parce que ça va dicter le ton, parce que je me rappelle en début de journée, on s'est écrit sur Marco Rossi, mais là c'est officiel, Frank Nazar qui signe une entente de 7 ans évaluée à 6,59 millions par saison avec les Blackhawks de Chicago. Bonne signature à mon avis pour les Blackhawks.
Ouais, je suis d'accord avec toi, FX. En fait, je pense que ça va exactement dans la lignée de ce qu'on peut voir dans les dernières années, tu sais, de prendre un pari avec un jeune joueur qui n'a pas encore accompli énormément de choses et de se dire que ça va être simplement un contrat pour le futur, et spécialement dans l'ère où le plafond salarial augmente d'environ 4, 5, 6 millions par année. On pense que ça va être encore les projections pour les deux ou trois prochaines saisons. Et c'est ce que j'aime bien dans le cas de Frank Nazar. Donc, tu sais, pas une très, très grosse saison au niveau statistique, obtenu 26 points en 53 matchs. Mais je pense que c'est bon de voir, tu sais, on le regarde jouer un peu Frank Nazar, c'est un gars qui est déjà très rapide. C'est quelqu'un qui défensivement s'illustre très, très, très bien. Et justement, avec cette hausse-là, tu sais, de l'avoir à 6,59 c'est de millions de dollars par saison, ça peut devenir une aubaine d'ici 3 ou 4 ans. Pas simplement comme deuxième joueur de centre, parce qu'il y a quand même un Anton Frondell, des gars comme ça, qui peuvent cogner à la porte chez les Hawks dans les prochaines années. Mais là, à un moment donné, si tu te retrouves d'ici 3, 4, 5 ans, ça devient même un salaire d'un gars de troisième trio. Donc, si tu es du côté des Blackhawks, c'est vraiment un gars que tu peux t'assurer d'avoir dans ta formation au minimum comme troisième joueur de centre. C'est parfait. Et avec la progression qu'il a, avec ce qu'il a montré dans ses derniers matchs de la saison dernière, surtout au championnat mondial de hockey, c'est très, très, très bon pour les Hawks.
Ouais, je pense que les attentes sont quand même élevées à l'endroit de Frank Nazar, a été sélectionné 13e au total avec le choix de la transaction Kirby Dach à l'époque qui appartenait aux Canadiens. Et dans son cas, c'est de poursuivre sur la dernière saison. Il a joué beaucoup de matchs dans la Ligue américaine, beaucoup dans la Ligue nationale aussi, mais on parle d'un contrat qui pourrait très bien vieillir. Quand tu regardes les dernières signatures de contrat dans les dernières années avec des jeunes joueurs, ben dans le cas de Frank Nazar, avec l'augmentation du plafond salarial en plus, ça se pourrait que dans 3 ans, ce soit une aubaine ce contrat-là.
Ouais, c'est ça, absolument, FX. Je pense que là, présentement, c'est 26 points. On peut déjà le voir, c'est déjà le cas la saison dernière. C'était le deuxième joueur de centre des Blackhawks. Ouais. Je l'ai mentionné. Actuellement, et c'est important de dire actuellement, ça va changer dans 2 ou 3 ans. Un contrat de 6 600 000 $ par saison, c'est pas mal dans la moyenne des deuxièmes joueurs de centre, donc c'est déjà le cas, et il va simplement s'améliorer. Je le répète, moi je trouve qu'au niveau physique, c'est beaucoup amélioré, ça lui a pris son temps, la Ligue américaine l'a aidé à se prendre en main au niveau physique, à être plus à l'aise un peu dans les coins. Et c'est pas un gros joueur, c'est un gars de 5 pieds 10 pouces, Frank Nazar, mais c'est quelqu'un qui se tient pas mal plus devant le filet qu'on peut le voir. Écoute, avant, c'est la chronique. Je me suis amusé d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il a fait avec les États-Unis au championnat mondial de hockey, où il a un rôle peut-être un peu plus important. Et malgré sa petite taille, c'est quelqu'un qu'on plaçait devant le filet. C'est quelqu'un qui était capable d'aller dévier des tirs, capable de prendre la pression, capable de prendre des coups de bâton et tout ça. Mais de temps à autre, récupère la rondelle, paf, en une fraction de seconde, remettant un joueur qui était dans l'enclave, était capable de distribuer la rondelle de tous les côtés. Donc vraiment, Frank Nazar, moi je pense que c'est un excellent contrat et ça va exactement dans la lignée de vouloir espérer qu'il puisse vraiment progresser et d'avoir un contrat là, qui devient une aubaine d'ici 5 ans.
Ouais, et on va surveiller avec beaucoup d'attention les prochaines semaines parce qu'il y a des joueurs qui vont devoir signer des ententes. Je pense à Marco Rossi, je pense à Luke Hughes. Lane Hudson peut signer un nouveau contrat aussi depuis le 1er juillet dernier. J'ai hâte de suivre ces dossiers-là avec beaucoup d'attention. Et je vais enchaîner sur les propos du capitaine du Canadien, Martin, Nick Suzuki, dans un tournoi de golf. Il a mentionné à l'entrevue à RDS. Ben, je vais vous laisser entendre et on réagit par la suite.
Expectations are going to grow and we know that and that's fine with us. I mean, we all want the same goal at the end of the day and we want to be challenging for Stanley Cup. So I think from now on, that's pretty much going to be our goal.
Les attentes montent, c'est normal, on veut compétitionner pour gagner une Coupe Stanley. Rappelle-toi l'an dernier, Martin, le fameux mot sur toutes les lèvres après le tournoi de golf du Canadien, c'était le mot « mix ». Et là, Nick Suzuki, avant le tournoi de golf du Canadien, mentionne qu'il veut que l'équipe compétitionne, se batte pour gagner une Coupe Stanley. Est-ce que c'est réaliste de penser que le Canadien peut vraiment accéder à ce prochain niveau-là? Comment t'as perçu les propos du capitaine du CH?
Je pense que c'est un propos classique de joueur de hockey qui a eu une belle progression. T'sais, justement, les Canadiens de Montréal ont vraiment fait un bond en avant l'an dernier. On s'est taillé une place en série par la peau des fesses un petit peu. Et là, évidemment, tu obtiens Noah Dobson, tu obtiens Zachary Bolduc. Je pense que c'est une des équipes qui s'est le plus améliorée dans la LNH cet été. Je pense que c'est normal pour un joueur de hockey qui veut toujours faire le meilleur de soi-même, veut toujours se prouver un petit peu. Tu as une meilleure équipe, tu as une équipe en ascension, tu as beaucoup de jeunes joueurs qui se développent. Je pense que c'est logique pour lui de penser ça. Maintenant, est-ce que c'est réaliste de penser que les Canadiens peuvent viser une Coupe Stanley cette année? Moi, je pense que non. Moi, je pense que vraiment, il y a trop de trous et je pense que c'est surtout au centre. Je pense que, par contre, on est sur la bonne voie. On s'en va dans la bonne direction. Il faut toujours que tu te gardes une gêne. Bon, OK, on a des bons morceaux, on a des bons jeunes et tout ça, mais les autres équipes en ont aussi. Il faut toujours que tu vois qu'est-ce que ça peut donner une fois le produit final. Là, au moins, on peut dire qu'à l'aile, je pense qu'on commence à avoir un peu leur portrait final de ce que ça peut ressembler chez les Canadiens. En défense, le portrait augure bien également, mais moi, c'est vraiment la ligne de centre. Nick Suzuki est très, très bon, mais premièrement, Kirby Dach, ce n'est pas certain qu'il va commencer la saison. Ça, c'est déjà un gros point d'interrogation. Et même si Dach la commençait, est-ce que tu es vraiment confortable d'avoir Kirby Dach comme deuxième joueur de centre? Et si c'est pas lui, ça va être Zachary Bolduc, qui a jamais joué au centre depuis son année de repêchage. Est-ce que c'est Alex Newhook qui a montré ses limites à ce niveau-là? Est-ce que c'est Jake Evans? Est-ce que c'est Oliver Kapanen? Je veux dire, la position de joueur de centre, selon moi, est la plus importante dans la LNH, dans une équipe de hockey. T'es le joueur qui est bon défensivement. T'es le joueur par qui tout passe au niveau des chances de marquer, au niveau de la créativité offensivement. Et je pense que malheureusement, chez les Canadiens, à ce niveau-là, c'est pas fameux. Là.
Mais avec cette phrase-là du capitaine, justement, est-ce que tu penses que ça peut préparer quelque chose pour amener un deuxième joueur de centre à Montréal ou pas nécessairement? Il l'a mentionné parce qu'à l'intérieur du groupe, on est confiant et on croit en nos moyens.
Je pense que c'est vraiment un capitaine qui veut t'envoyer un message de dire « Écoute, on a une meilleure équipe, on veut vraiment faire un bond en avant et on croit en nous au point où de penser qu'on peut aspirer à une Coupe Stanley. » C'est vraiment pas plus à ce niveau-là. Tu sais, là, si tu te mets à la place de Kent Hughes, moi, je pense que je suis très heureux de voir Nick Suzuki dire ça parce que, justement, t'es à la bonne place, t'es compétitif, tu veux espérer vraiment que cette équipe-là offre la meilleure prestation possible. Est-ce que ça prépare quelque chose pour en termes de deuxième joueur de centre? Je regarde les équipes en ce moment, on est quand même le 21 août. C'est pas comme s'il y a une tonne d'occasions. On va parler de Marco Rossi. Là. Rossi, premièrement, je ne suis pas sûr que c'est vraiment le meilleur joueur qui cadre le plus dans les besoins des Canadiens. Mais tu sais, je regarde qu'est-ce qu'on a. Il y a beaucoup de rumeurs sur un Jared McCann présentement avec le Kraken de Seattle. Est-ce qu'on peut amener un gars comme ça? Est-ce qu'on est capable de donner des munitions, peut-être qu'on peut chercher un défenseur gaucher. Moi, je pense que si on va aller chercher un deuxième joueur de centre, ça passe vraiment par Michael Matheson. C'est quelqu'un qu'on n'a pas vraiment besoin au sein du top 4 en ce moment. C'est quelqu'un qui, je pense, sa production offensive pourrait diminuer parce que tu ajoutes Dobson et tu as déjà Lane Hudson qui va progresser. Donc, peut-être d'ajouter un Jared McCann, ça peut être bien. Et peut-être pas à court terme, je suis même pas certain que si j'étais Steve Yzerman, j'échangerais ce gars-là, mais je surveillerais peut-être Marco Kasper à long terme. Tu sais, il y a des rumeurs avec Mason McTavish, ça c'est un autre que je ne vois pas nécessairement partir des Docks, je pense simplement qu'on joue au bras de fer avec lui, mais supposons qu'on veut aller se chercher un deuxième joueur de centre chez les Red Wings, qu'on va chercher un McTavish ou quelqu'un comme ça. Est-ce qu'on envoie le message que Marco Kasper devient disponible, qu'on ne veut pas nécessairement l'utiliser dans leur système? Moi, Kasper, je l'adore. Je pense que c'est quelqu'un qui a un gabarit convenable, c'est quelqu'un qui est rapide, c'est quelqu'un qui a d'excellentes mains, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller où ça fait mal, de travailler fort. Je pense que ce sera un extraordinaire complément à un Nick Suzuki. Tu sais, si t'es capable de l'avoir dans une transaction parce que les Red Wings s'améliorent ou tout simplement dans quelque chose à trois équipes, je sais pas comment tu peux le concevoir et je suis pas certain que Kasper va partir de Détroit, là, mais si ça devient possible, moi, être Kent Hughes, là, j'écouterais fortement qu'est-ce qui peut en arriver. Puis si t'es capable de contracter une transaction à ce niveau-là, ben pourquoi pas, t'sais.
Parlons-en de Marco Rossi parce que tu l'as mentionné. Selon Michael Russo qui couvre les activités du Wild du Minnesota pour The Athletic, il y aurait eu des progrès considérables dans les négociations avec le Wild. On parlerait ici, Martin, d'un contre-pont dans le cas de Marco Rossi avec le Wild du Minnesota?
Ouais, ben je suis pas vraiment surpris en fait de cette situation-là. Ouais. Dans le cas de Marco Rossi, je pense que c'est logique du côté de l'agent, tout ce qui s'est passé cet été. Du côté de Rossi, on l'a dit un peu depuis les derniers mois, on pense qu'on vaut à peu près 7 millions de dollars par saison. Tu regardes les contrats qui se sont signés, Matthew Coronato a signé un contrat de 6 500 000 dollars avec les Flames. C'était le comparable pour Rossi. C'est logique d'aller là. C'est quand même quelqu'un qui a obtenu 60 points. C'est logique également de dire qu'on veut aller obtenir une augmentation de salaire. Et avec tout ce qu'on voit dans la LNH en ce moment... On vient de parler de Frank Nazer, je veux dire, Marco Rossi a eu une meilleure saison que Nazer la saison dernière, il est plus établi, entre guillemets, peut-être un peu plus important au Wild du Minnesota. Cependant, tu regardes la situation, Rossi est un joueur de 5 pieds 9 pouces, on a entendu des échos un peu partout à travers la Ligue nationale cet été, comme quoi on l'a suggéré dans des transactions, notamment pour JJ Peterka, on suggérait d'offrir Rossi et autre chose, et on a refusé du côté de Kevin Adams. La tendance n'est pas pour les petits joueurs de centre de 5 pieds 9, 5 pieds 10 pouces. Donc déjà au niveau transaction, et là si tu te diriges au niveau des offres hostiles, un aspect que les gens oublient parfois, c'est que ton joueur doit quand même signer l'offre hostile. Il faut que ce soit intéressant. Donc si on pense qu'on vaut 7 millions de dollars, si tu regardes les compensations, c'est un choix de premier, deuxième, de troisième tour. Est-ce qu'une équipe est prête à aller investir autant pour un petit joueur de centre alors que ça n'a pas la cote en ce moment? Et je pense que c'est là que si t'es l'agent, que t'es le clan Rossi, ben tu te dis, écoute, ça passera pas par un autre endroit, je suis pas certain que je vais avoir une offre hostile, donc pourquoi ne pas se réentendre avec le Wild, mais à court terme, de montrer qu'est-ce que tu peux prouver, de montrer que tu peux t'améliorer à nouveau, et peut-être qu'il peut impressionner le Wild, mais au minimum, s'il peut montrer à une équipe dans un an ou deux ans que là, ben finalement, ça vaut la peine d'aller dépenser un petit peu plus, ben je pense que c'est ça la logique dans le clan Rossi.
Ouais, Marco Rossi qui va avoir 24 ans en septembre prochain, 60 points, 24 buts en 82 matchs la saison dernière avec le Wild du Minnesota. Je veux te lancer sur David Rembacker. J'ai vu des images sur X qu'il était à l'entraînement à Brossard ce matin. Il semblait parfaitement à l'aise avec ses genoux. Est-ce que ça, c'est de bon augure en vue du camp d'entraînement qui s'en vient chez le Canadien?
Je pense qu'il faut faire attention à ça avec ça. C'est évidemment qu'il faut être content. Ouais. Là, je veux dire qu'il y a eu des problèmes de santé. On veut qu'il se batte pour un poste au camp d'entraînement. Moi, je le renverrai avec le Rocket. Mais bon, il faut quand même espérer qu'il se batte pour un poste à la ligne bleue. Cela dit, ça demeure... T'sais, les joueurs, à quelque part, viennent de recommencer un peu à patiner. Là. C'était beaucoup en gymnase et tout ça. Oui, il y a un rythme qui est intéressant, mais ça ne va jamais égaler ce qu'on va voir dès le jour 1 du camp d'entraînement. Lorsque Martin Saint-Louis va débarquer et qu'il va y avoir des répétitions, qu'on va les faire travailler avec un rythme pas mal plus élevé que celui du 21 août. Et surtout, lorsqu'on va le défier physiquement, lorsqu'on va commencer à entrer les bagarres un contre un, les bagarres devant le filet, que Rembacker va devoir travailler un peu plus sur ses pivots, que ça aille plus rapidement et surtout lorsqu'on va commencer à le voir dans des vrais matchs, des matchs préparatoires où il est frappé, où il est testé durement par les équipes adverses qui, eux, ne se gêneront pas pour, par exemple, faire mal à des joueurs adverses. Je pense que c'est un peu plus ça qu'il faut surveiller dans le cas de Rembacker. Donc, c'est positif, c'est bien de voir ça. C'est agréable de voir aussi qu'il semble avoir amélioré un peu son côté mobilité. Moi, j'ai trouvé qu'avec le Rocket, parfois, c'était peut-être le côté un petit peu négatif dans son cas. Il était peut-être un peu plus vulnérable à l'échec avant pour cette raison-là. Donc, c'est très bien, mais je dirais qu'on va attendre de voir avant de confirmer que tout va bien pour lui.
En terminant, je veux te parler rapidement de Pascal Vincent qui a été élogé à l'endroit de Jacob Fowler durant le podcast de Sick Podcast. Et... je vous laisse entendre les propos de Pascal Vincent. On traduit par la suite et je vais te poser une question, Martin.
This guy could be a captain. No, I'm serious. He could be. I mean, his attitude is phenomenal. He's it's hard to explain this young man. He comes in a room, he doesn't know anyone or barely knows a few guys, and he fits right in. He knows when to speak, he knows when not to. He goes on the ice, he works hard. He's obviously very talented, but he's got some leadership attributes to him that I didn't see very often, especially in the goalie. And right. Because it's almost a sport within the sport, being a goalie. And for him to come in the room and just be that mature and fit the way he did fit in the room was quite remarkable. And I was really impressed with him.
Les propos de Pascal Vincent, qui était l'invité au podcast de Sick Podcast, The Eye Test, avec Pierre Maguire et Jimmy Murphy. Je vous traduis les propos. Il est évidemment très talentueux, mais il a des qualités de leader que je n'ai pas vues souvent. Ce gars-là pourrait être capitaine. Je suis sérieux, son attitude est phénoménale, ce jeune homme. C'est dur à expliquer, mais il entre dans une pièce et même s'il ne connaît personne ou presque, il est à sa place. On l'a vu, Martin, à la fin de la saison, arriver à Laval, avoir quelques départs par la suite, avoir le filet aussi en séries éliminatoires. Il est arrivé dans un contexte où, rappelle-toi, Caden Primo était tout feu, tout flamme. Il était excellent devant le filet du Rocket de Laval. Qu'est-ce que ça te dit, ces propos-là, de Pascal Vincent à l'endroit de Jacob Fowler?
Je pense que c'est simplement une autre preuve que Jacob Fowler a une excellente attitude. Tu sais, depuis qu'il a été repêché, souviens-toi des fameuses vidéos des Canadiens lors des entrevues de repêchage avec l'état-major, avec les entrevues qu'on a fait avec certains joueurs. Et déjà, tu pouvais voir dans ces vidéos-là que Fowler était très mature. C'est quelqu'un qui avait une bonne écoute, c'est quelqu'un qui avait une belle connaissance non seulement du hockey, mais de l'histoire un peu des Canadiens de Montréal par le fait que, oui, il vient de la Floride, mais qu'il a de la famille au Québec et tout ça. Tu vois qu'il était très posé, qu'il était intelligent, qu'il avait surtout une belle passion pour le sport à quelque part. Tu sais, je me souviens de lui à son année de repêchage. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de livres à perdre. Il avait un peu du gras de bébé, si on veut. Il a travaillé fort là-dessus. Il a été capable de se faire une place. Tous les échos qu'on avait à Boston College, comme quoi c'est un bon coéquipier. On l'a vu souvent dans des événements avec ses coéquipiers, donc semblait très apprécié. Je pense que simplement de voir ça, tu sais, les échos qu'on entendait chez le Rocket, c'est justement qu'il était super calme, qu'il n'y a rien qui l'impressionnait. Même si c'était ses premiers matchs dans les rangs professionnels, il était parfaitement correct, parfaitement à l'aise. Et là, d'avoir Pascal Vincent qui confirme ça, qui s'en va dire qu'il travaille fort, il se présente à l'aréna, il met ses bottes de travail, il travaille, il s'assure vraiment de s'améliorer et de devenir le meilleur joueur possible, ça va simplement avec ce qu'on entend tout le temps. Et quand il parle de capitaine, pas que Jacob Fowler va devenir un capitaine, ça demeure un gardien de but, là, mais c'est intéressant de dire que, tu sais, un leader, t'es pas obligé nécessairement de parler. Je pense que Fowler est intéressant quand même au niveau de bien s'entendre avec ses coéquipiers, mais c'est surtout de la façon que les joueurs te suivent, tu sais, de faire les choses par toi-même. Et là, tout le monde autour de toi voit ça et dit, écoute, j'ai pas le choix d'en donner plus, parce que si je veux être au niveau de Fowler, ben, si je veux me tailler une place, je dois être à ce niveau-là. Donc, t'en donnes davantage. Et ça peut simplement être contagieux pour tout le monde. Quand on parle d'avoir des bons joueurs, pas simplement des bons joueurs, mais de bonnes personnes qui poussent tout le monde vers le haut, ben, un gars comme Jacob Fowler, c'en est un autre bel exemple.
J'ai hâte de voir sa première saison complète avec le Rocket de Laval. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à le suivre, Jacob Fowler. Martin, un gros merci pour ton temps aujourd'hui. Super apprécié. On fait ça la semaine prochaine sans faute.
Sans problème, on se reparle la semaine prochaine, FX.
Merci beaucoup, Martin Thériault, qui était avec nous. L'excellent Martin Thériault, co-animateur du podcast Processus et co-animateur du podcast La Relève avec Anthony Desaulniers. On s'arrête quelques instants. Au retour, les Alouettes sont sur la montagne ce soir pour affronter les Blue Bombers de Winnipeg. Frédéric Daigle de la presse canadienne est avec nous.